Dépôt définitif ou traitement définitif, en route vers des solutions de rechange à l'enfouissement. Projet d'augmentation de la capacité du lieu de dépôt définitif de sol contaminé à Mascouche par Alexandre Richard, consultation ciblée juin 2020. Introduction. Héritage des pratiques industrielles qui se perpétuent encore de nos jours sur l'ensemble de la surface terrestre, la dispersion des contaminants d'origine anthropique dans l'environnement constitue un enjeu majeur dont nous devons faire face aujourd'hui afin de limiter les risques pour les générations futures. Le moment est venu d'appliquer le principe de précaution et de prendre tous les moyens nécessaires afin de réduire à la source les risques de contamination des sols, ce qui implique inévitablement des changements concernant notre mode de vie, remettant ainsi en question l'ensemble des processus et méthodes que nous avons créés afin de soutenir notre niveau de vie actuel. L'humain est par définition un concentrateur de contaminants opportunistes dont l'une de ses spécialités est de concentrer les contaminants à l'intérieur de divers objets qu'il a conçus pour ensuite les disperser à différents endroits en fonction des règles du marché qu'il a lui-même créé. L'acceptation de cet état de fait constitue la première étape d'une démarche qui nous permettra de changer nos façons de faire pour choisir et valider les outils nécessaires à améliorer nos pratiques tout en réduisant de façon croissante les impacts négatifs de nos activités quotidiennes. Le projet déposé par Signataire représente une excellente étude de cas qui nous offre l'opportunité de remettre en question nos pratiques afin de les rendre plus durables. Objectif de la demande de consultation publique. Objectif 1. Contribuer à créer un système évolutif permettant de réduire à court terme, et ce, de façon graduelle, le recours à l'enfouissement en fonction des avancées technologiques tout en favorisant le développement des technologies nécessaires au traitement des sols contaminés déjà enfouis, en plus de favoriser l'amélioration continue de la qualité des sols traités. Objectif 2. Comparer de façon exhaustive les technologies de traitement existantes, incluant ceux dont les recherches sont en cours, ainsi que la capacité humaine à développer des solutions pour des problèmes concrets. Ici, le recours à l'enfouissement définitif est sérieusement remis en question et nécessite une comparaison par le biais d'une étude d'impact réalisée selon les règles de l'art, incluant diverses solutions de rechange, mesures d'atténuation et de compensation. Objectif 3. Pour les sols difficilement traitables via les technologies disponibles, évaluer la possibilité d'une accumulation suffisante de fonds au moment des opérations de traitement et d'enfouissement afin de rendre possible leur décontamination ultérieure à moyen terme. Objectif 4. Évaluer les effets du projet de Signataire sur la compétitivité économique ainsi que des émissions de gaz à effet de serre par rapport aux autres méthodes de décontamination plus durable. Opinion concernant le projet et l'enfouissement généralisé. Le projet tel que présenté par Signataire ne doit pas être autorisé. Malgré les mesures d'atténuation prévues, l'enfouissement définitif de sols contaminés représente un fardeau perpétuel dont les risques à très long terme sont difficiles à évaluer et qui devront inévitablement être assumés par les générations futures. Les sols traités par la plateforme de traitement projetée de Signataire seront principalement enfouis via leur valorisation dans un lieu d'enfouissement technique à proximité, ce qui occasionne des impacts cumulatifs quotidiens sur l'ensemble de notre société. Pour des motifs visant l'atteinte éventuelle d'objectifs visant des changements comportementaux qui réduiront le recours à l'enfouissement, il est nécessaire que le passif environnemental de l'ensemble des sites d'enfouissement existants soit préalablement évalué afin de permettre la réalisation d'études d'impact crédibles. Le site de Signataire semble être un bon cas de figure pour nous aider à développer notre vision concernant l'enfouissement. La poursuite des activités d'enfouissement définitives, tous sites confondus, résulte en des impacts sur les activités et comportements humains. De la conception des objets, des outils, en passant par les procédés de fabrication choisis, leur transport, leur utilisation, ainsi que leur traitement en fin de vie. Quand nous choisissons d'opter pour ce mode de gestion, nous contribuons à permettre la poursuite des méthodes de conception et de fabrication non durables
qui sont le moteur d'une consommation accélérée de biens et services dont les effets ne respectent pas la capacité de recharge des écosystèmes. L'enfouissement définitif de sols contaminés à masse couche permettra de doubler la capacité de traitement des sols qui seront par la suite enfouis dans un LET, ce qui a pour effet de rendre ce même LET plus compétitif par rapport au mode de gestion plus durable des matières résiduelles, permettant alors la poursuite des activités de conception des objets et d'élaboration des services sans tenir compte des impacts tout au long de leur cycle de vie, engendrant alors une kyrielle d'impacts socio-environnementaux dont les externalités ne sont pas internalisées. Au moment d'écrire ces lignes, la plupart des produits sur les tables à dessin des firmes d'ingénierie n'ont pas fait l'objet d'une analyse du cycle de vie et sont conçus en prenant pour acquis que les sites d'enfouissement vont assurer leur gestion efficace. Indirectement, la responsabilité élargie des producteurs ainsi que celle des consommateurs est court-circuitée par ce choix de mode de gestion. Poursuivre l'enfouissement perpétuellement façonne littéralement notre comportement collectif. Nous sommes tellement habitués d'enfouir et dépendants de cette méthode archaïque que nous le voyons comme une finalité nécessaire à notre survie. Notre acceptation collective d'enfouir crée des impacts sociaux cumulatifs titanesques qui limitent sérieusement notre capacité d'innovation tout en accentuant les inégalités sociales. Nous créons et consommons au quotidien des objets peu durables à durée de vie limitée qui, tout au long de leur cycle de vie, contaminent au passage les sols que nous décontaminons partiellement via des plateformes de traitement comme celle de Signataire, afin de les enfouir par la suite dans les lieux d'enfouissement technique. Quand nous décidons d'enfouir un objet bon marché, conçu outre-mer ou local, et que nous le recouvrons de sols contaminés dans un lieu d'enfouissement technique, LET, nous sommes en partie responsables des impacts négatifs attribuables à sa phase de fabrication. Dans un contexte de globalisation, nos lieux d'enfouissement techniques créent des impacts indirects sur l'ensemble de la planète et qui doivent être nécessairement considérés lors des études de projet. On ne peut continuer à ignorer ce fait pendant très longtemps et nous devons utiliser les outils adéquats, incluant entre autres l'analyse du cycle de vie combinée à l'étude d'impact afin de bâtir un système durable. Pendant que nous sommes tous acteurs de cette routine, nous nous infligeons sans trop nous en rendre compte un impact beaucoup plus grand qui se résume à limiter de façon soutenue notre capacité de changement de comportement rapide face aux défis d'adaptation que représentent les changements climatiques. L'enfouissement de tous ces objets ainsi que des sols souillés au passage nécessite une immense quantité d'énergie en grande partie issue de ressources fossiles non renouvelables émettrices de gaz à effet de serre, contribuant ainsi au réchauffement climatique tout en contaminant inévitablement l'eau, l'air et le sol tout au long de leur cycle de vie. Où vont les particules de peinture automobile qui se dégradent avec le temps sous les rayons du soleil? Où est passée la bande de roulement du pneu à moitié usée par sa friction sur la chaussée? Où va la trace visible d'huile qui coule dans la bouche d'égout du stationnement du centre d'achat lors d'une forte pluie? Où se retrouve la partie non valorisable des résidus domestiques dangereux que nous avons pris la peine de déposer à l'éco-centre? Il y a 4 réponses possibles. Dans l'eau, dans l'air, dans le sol ou dans un site d'enfouissement. Pourquoi utilise-t-on autant de matières dangereuses et choisissons-nous de concevoir des objets et outils les utilisant? Car l'enfouissement rend possible leur traitement à faible coût. Si je passe mes journées à peaufiner une recette de super lubrifiant contenant un additif difficilement traitable en fin de vie, au lieu de concentrer mes efforts à créer un bio-lubrifiant durable, ce n'est pas très grave. Je peux compter sur l'enfouissement et continuer à vaguer à mes activités. L'enfouissement est au cœur de nos façons de faire. Il gouverne de manière subtile notre mode de vie. Nous devons à tout prix réduire notre dépendance à ce mode de gestion qui a pour effet de nous rendre collectivement incompétents et totalement inefficients au quotidien. Nous perdons littéralement notre temps à concevoir et utiliser des objets non durables, ce qui résulte, entre autres, à une dilapidation de l'énergie, alors que les ressources humaines pourraient se mobiliser afin de mettre en pratique des méthodes d'éco-conception, ainsi que le développement de procédés réduisant de façon soutenue les risques environnementaux, entre autres via le développement et l'utilisation des biomatériaux issus de ressources renouvelables, ce qui limiterait à la source les risques de contamination des sols. Pendant la mise en œuvre de ce calcul du passif environnemental des sites d'enfouissement nécessaires à l'élaboration d'études d'impact, par principe de précaution, il est primordial de réduire à la source la nécessité d'enfouir lorsque la technologie le permet. Les alternatives au projet existent et doivent être intégrées à une étude d'impact socio-environnemental crédible afin d'être présentées aux citoyens et experts pour consultation, optimisation et recommandation. Pour ce qui est des sols contaminés non traitables à court terme, l'enfouissement doit absolument être conditionnel à leur décontamination subséquente et différentes mesures d'atténuation et de compensation doivent être mises en place afin d'assurer la bonne marche des opérations.
État de la situation. Le bien fondé de la nécessité du recours au traitement des sols ex situ par signataire n'est pas totalement remis en question, mais nécessite cependant une analyse approfondie concernant la problématique de gestion des sols contaminés traités qui se juxtapose à la gestion des matières résiduelles par le biais du recouvrement journalier. Cet état de fait concernant le recouvrement journalier contribue à bâtir un passif environnemental bien que contrôlé par des techniques de haute ingénierie et confiné à l'intérieur de lieux d'enfouissement technique appelés LET, constitue tout de même un passif environnemental qui est déplacé vers un autre site et qui devra un jour ou l'autre être décontaminé de façon définitive pour éliminer les risques. Les cellules de confinement ainsi que les dispositifs de traitement des lixivia n'ont pas une durée de vie éternelle. Les risques environnementaux y étant associés sont présents, représentant ainsi un fardeau de décontamination dont les ressources nécessaires à leur réhabilitation n'est pas incluse dans le calcul du passif environnemental collectif qui est alors sans cesse repoussé aux prochaines générations. Ces sols traités et valorisés dans les LET sont en fait enfouis entre les couches de matières résiduelles et seront inévitablement recontaminés via ces mêmes matières et autres détritus enfouis, ce qui constitue une valorisation bien peu efficace en fonction des efforts ainsi que de l'énergie nécessaire à leur décontamination. Une récente enquête du Bureau d'audience publique sur l'environnement, le rapport 266, stipule que l'un des sites d'enfouissement de matières résiduelles opérés par Waste Management, situé à Sainte-Sophie, reçoit plus de la moitié des sols contaminés traités au Québec et qu'aucune redevance sur ces sols contaminés n'est perçue afin d'être redistribuée à la communauté. À l'heure actuelle, les sols traités par signataire sont en grande partie enfouis dans un LET et les sols difficilement traitables via les technologies qu'ils utilisent sont enfouis à même leur site. Les sols contaminés sont alors éco-blanchis temporairement, le temps d'une courte nuit. Certains experts sont d'accord pour qualifier cette forme de dispersion contrôlée des sols contaminés comme de la valorisation. En fait, la journée suivant leur dépôt, les sols traités sont alors recontaminés par les déchets domestiques que nous générons quotidiennement. Nous sommes tous solidairement responsables de cet état de fait et je m'y inclus. Le dépôt définitif des sols contaminés difficilement traitables, tout comme la valorisation des sols contaminés dans les LET, sont les fruits de notre manque d'ambition à créer les outils nécessaires à leur traitement définitif et complet, impliquant nécessairement une combinaison de techniques et d'outils innovants plus complexes. Lors de l'audience du 8 juin, signataire nous a déclaré qu'ils ne font pas de la terre à jardin. Ma question est-il possible de le faire? Passer d'un sol B à un sol A est-il possible? Quels sont les efforts déployés à ce jour pour tenter d'atteindre cet objectif? Conséquence d'un déni assumé, combiné à la conception de lois et règlements déchargeant la chaîne d'acteurs de toute responsabilité par rapport à la finalité, nous sommes en train d'oublier que ce sol nous permet de nous nourrir
et qu'il constitue un des piliers nécessaires à l'obtention d'une panoplie de services écosystémiques variés. Nous sommes engagés dans un processus linéaire dont la finalité est l'enfouissement des sols que nous avons préalablement souillés. Ce déni assumé nous déresponsabilise quotidiennement et, vu l'ampleur du problème, nous incite à fuir la réalité pour se diriger vers la voie la plus facile et connue, qui se nomme, bien sûr, l'enfouissement. Ce mode de gestion est d'autant plus très lucratif pour les opérateurs de sites, ce qui contribue par défaut à limiter à la source leur motivation à implanter des solutions de rechange plus complexes sur le plan technologique et d'autant plus risquées sur le plan financier. De plus, l'enfouissement définitif a pour effet de concentrer la richesse, et ce de façon accélérée, entre les mains de quelques acteurs spécialisés, remettant en question le principe d'équité à la base des 16 principes de développement durable ou de durabilité collective. Ce mode de gestion des sols via l'enfouissement exempte de mesures de compensation proportionnelles aux passifs légués à la communauté a aussi pour effet de limiter l'accès à une part juste de la richesse générée, qui pourrait alors être réinvestie dans l'élaboration de solutions de rechange permettant entre autres le développement accéléré de notre capacité d'innover dans le domaine. De plus, l'analyse des efforts investis à ce jour par le promoteur afin d'optimiser le traitement des sols contaminés vers une plage de contamination inférieure est remise en question. Le promoteur nous présente seulement quelques méthodes de traitement à utiliser afin de décontaminer les sols reçus, alors qu'il en existe plusieurs autres. Cet état de fait nous incite à nous questionner sur ses principaux intérêts et de nous pencher sur l'analyse des objectifs d'amélioration continue ainsi que des efforts investis à ce jour pour améliorer la qualité des sols traités sur leur site, qui par le fait même permettrait de limiter à la source le recours à l'enfouissement. Analyse de l'étude d'impact et de la démarche concernant le projet. Concernant la comparaison des solutions de rechange, le promoteur n'a pas proposé d'alternative au projet, ni proposé de mesures d'atténuation offrant le potentiel de réduire à la source la nécessité d'enfouir définitivement les sols, court-circuitant ainsi le processus usuel d'étude d'impact. Les promoteurs sont directement passés aux mesures d'atténuation, conception de cellules à sécurité maximale, plan des mesures d'urgence, ainsi que de compensation, garantie financière et redevance à la ville de Mascouche et implantation d'une fiducie de gestion post-fermeture. Si on épluche l'étude d'impact, il est à même de constater que peu d'efforts ont été consacrés afin d'orienter les concepteurs de l'étude aux solutions de rechange. Pourquoi le promoteur n'a pas insisté sur ce point lors des rencontres avec le consultant qui réalise l'étude d'impact? La négociation d'une mesure de compensation entre la ville de Mascouche en échange d'une redevance pour chaque tonne de sol éventuellement enfouie via un acte notarié, stipulant que la ville appuiera le projet, place aussi cette dernière ainsi que le promoteur en conflit d'intérêts pécuniaires par rapport à l'élaboration de solutions de rechange pouvant constituer des alternatives au projet et limiter à la source la nécessité de l'enfouissement définitif. Le promoteur a un intérêt financier par rapport aux profits projetés relatifs à l'enfouissement des sols, et la ville a un intérêt pécuniaire projeté relatif aux redevances négociées lors de l'entente préalable. Cet état de fait ne doit pas être interprété comme une accusation. Il est mis en évidence afin de permettre la compréhension de la dynamique du montage du projet et de comprendre pourquoi les solutions de rechange n'ont pas été diffusées lors de la séance d'information. Cette façon de faire est largement répandue dans le milieu. Probablement tout à fait légale, mais est-elle morale? Contribue-t-elle à la perpétuation du statu quo? Est-elle équitable par rapport à l'accès au savoir? Favorise-t-elle la participation et l'engagement citoyen? Contribue-t-elle au progrès social? Est-elle compatible avec le principe de précaution? Permet-elle à signataire d'assumer une part juste et équitable concernant la réduction des atteintes à la qualité de l'environnement ou de ses risques associés? Il faut bien comprendre qu'une étude d'impact, dont l'objectif est entre autres d'informer et consulter le public ainsi que les acteurs concernés, doit nécessairement démontrer la comparaison des impacts du projet présenté par rapport à la non-réalisation du projet et aux solutions de rechange ainsi qu'aux alternatives, ce qui n'a pas été fait. La transparence et l'accès des informations nécessaires à l'analyse ainsi qu'à l'élaboration des différents enjeux et impacts appréhendés attribuables au projet sont à la base de toute démarche crédible nécessitant la participation du public. De plus, par souci d'équité, les informations doivent être vulgarisées et présentées de façon impartiale et accessible à tous, ce qui n'a pas été fait. Dans le cas d'un projet qui est régi par les lois du marché et dont les risques environnementaux et sociaux peuvent être en partie assumés par la collectivité, il est primordial de bien comprendre son fonctionnement et d'avoir accès aux informations nécessaires à l'élaboration des opinions citoyennes. Signataire nous déclare que les revenus de l'entreprise sont proportionnels aux services rendus à la collectivité. Je veux bien croire cette société sur parole. Par contre, une analyse pragmatique de la situation est absolument nécessaire afin de déterminer s'il est acceptable collectivement d'enfouir à perpétuité des sols contaminés sur notre territoire et quels sont les principaux motifs du choix de ce mode de gestion via l'enfouissement pour cette entreprise. Ce projet représente un contrat social majeur qui contribuera à créer un passif environnemental dont nous avons présentement aucune idée des coûts réels nécessairement associés ou à une éventuelle décontamination ainsi que des risques socio-économiques y étant associés. Nous troquons l'acceptabilité d'un enfouissement perpétuel en échange de redevances, taxes, création d'emplois, représentant des retombées économiques, locales et régionales. Afin de bien évaluer cet échange, nous sommes en droit de savoir quelle part des retombées ne sera pas réinvestie dans notre économie et d'en évaluer l'équité. De plus, l'autorisation d'opération de ce lieu de dépôt définitif permettra de doubler la quantité de sol traité qui sera par la suite enfoui dans un lieu d'enfouissement technique sans percevoir aucune redevance, constituant ainsi un passif environnemental déplacé sur un autre lot et dont les risques seront aussi en partie assumés par l'ensemble de la collectivité. Signataire nous déclare que dans sa présentation que l'entreprise appartient à des intérêts québécois. En consultant le registraire des entreprises du Québec, nous pouvons y voir que Signataire appartient à une compagnie à numéro 8357013 Canada Inc., sise au Québec, dont le premier actionnaire est Imex Mobile Holding, sise aux Émirats Arabes Unis, le deuxième actionnaire étant Fiducie Simba et le troisième Fiducie Lys, toutes deux sises au Québec. Sous toute réserve, Signataire est administré par des Québécois et est détenu par une compagnie à numéro qui est en partie détenue par des intérêts privés outre-mer. Pourquoi Signataire ne présente pas ainsi? Pour quelle raison il y a 5 entreprises impliquées dans le montage? Cela peut-il représenter des risques économiques supplémentaires pour les générations futures en cas d'événements extraordinaires fortuits impliquant par exemple une pandémie ou un glissement de terrain? Par principe de précaution, j'aimerais que la Commission vérifie que les mécanismes sont bel et bien en place afin d'assurer une saine gestion perpétuelle des sols déjà enfouis ainsi que ceux projetés et ceux en fonction du passif environnemental perpétuel qu'il représente et non en fonction des coûts de gestion post-fermeture tels que présentés dans l'étude d'impact. L'actualité nous en dit long sur notre vulnérabilité au changement rapide. La crise due à la COVID-19 a sérieusement chamboulé notre modèle établi. Plusieurs entreprises vont ressentir les effets de ce virus invisible et bien présent. La plupart des plans et mesures d'urgence n'avaient pas prévu ce risque sanitaire, nous imputant par la bande des impacts économiques majeurs. Nous ne sommes pas protégés d'un éventuel désistement d'une compagnie à numéro. Pour ce projet, ainsi que pour l'ensemble des projets d'enfouissement, il est primordial de prendre en compte les risques économiques liés à des événements hors de notre contrôle. Pour ce motif, par mesure de précaution, il faut limiter l'enfouissement aux sols dont les technologies de traitement ne sont pas encore disponibles. Par souci moral de transparence et d'équité, concernant la répartition juste de la richesse attribuable aux activités d'enfouissement ainsi que de traitement qui bâtiront un passif environnemental sur notre territoire, Je demande à Signataire de nous ventiler et vulgariser la répartition des dépenses et revenus générés par l'ensemble de ses activités. Cette demande n'est pas une demande à portée légale. Elle constitue une demande à portée morale impliquant la bonne foi des initiateurs ayant pour objectif de permettre l'accès aux données nécessaires à la réalisation d'une étude d'impact crédible et transparente afin d'évaluer l'efficacité économique ainsi que l'équité sociale des différentes alternatives au projet comparativement à la solution proposée par le promoteur afin de prendre des décisions éclairées. Lors d'une éventuelle comparaison pragmatique des différentes solutions de rechange à l'enfouissement, concernant les impacts socio-économiques, si la solution d'enfouissement définitive génère des retombées économiques plus importantes et mieux réparties que les solutions de rechange proposées, cette solution pourra être retenue et passer le processus d'élaboration des mesures d'atténuation et de compensation. De plus, les 16 principes de durabilité, aussi appelés « développement durable », adoptés par les Québécois, bien que non exhaustifs et évolutifs, doivent au minimum être pris en considération lors de l'élaboration de l'étude d'impact. Il est crucial de ne pas court-circuiter les étapes et de tenir compte de ces principes lors du montage des projets afin que leur mise en œuvre soit cohérente avec ces mêmes principes. Afin de nous aider à élaborer des solutions de rechange, voici les 16 principes de durabilité. A. Santé et qualité de vie. B. Équité et solidarité sociale. C. Protection de l'environnement. D. Efficacité économique. E. Participation et engagement. F. Accès au savoir. G. Subsidiarité. H. Partenariat et coopération. I. Prévention. J. Précaution. K. Protection du patrimoine. I. Préservation de la biodiversité. M. Respect de la capacité de support des écosystèmes. N. Production et consommation responsable. O. Pollueur-payeur. P. Internalisation des coûts.
Élargissement de la zone d'étude. Afin de circonscrire l'ensemble des effets directs et indirects du projet sur les milieux biophysiques et humains, dans le but de comparer les différentes alternatives et solutions de rechange au projet, il est absolument nécessaire d'élargir la zone d'étude. Le choix du recours à l'enfouissement des sols contaminés ainsi que l'augmentation de la capacité de la plateforme de traitement projetée généreront des impacts et effets s'étalant sur une zone d'étude beaucoup plus vaste que celle décrite dans l'étude d'impact déposée par signataire. Des impacts potentiels sont appréhendés concernant la compétitivité de l'enfouissement par rapport aux diverses technologies de traitement disponibles qui permettraient dans l'immédiat de limiter à la source la nécessité d'enfouir les sols. Des impacts potentiels sont appréhendés concernant les effets de l'enfouissement par rapport au développement technologique projeté, tant pour signataires que pour les autres acteurs du milieu des sols contaminés. Des impacts potentiels sont appréhendés dû au fait que les sols traités sont valorisés dans les lieux d'enfouissement technique conjointement avec l'enfouissement des matières résiduelles. Sur ce point, dans l'immédiat, l'emploi des sols partiellement décontaminés par signataire dans les lieux d'enfouissement technique comme matériau de recouvrement journalier est qualifié « valorisation », puisqu'elle évite l'emploi de sols propres. Par contre, cette valorisation contribue en même temps à faciliter l'accès à l'enfouissement des déchets à faible coût, ce qui a pour effet de perpétuer nos mauvaises habitudes qui consistent à continuellement utiliser une poubelle ou un conteneur. Ces mauvaises habitudes d'utilisation addictive des sites d'enfouissement se répercutent alors sur la façon dont nous concevons les objets qui nous entourent, ainsi que de leur méthode de fabrication, d'emballage, se répercute aussi sur nos habitudes d'achat, etc. Cela constitue une chaîne d'impact qui a des effets simultanément positifs et négatifs de nature très différente et que nous devons analyser afin de nous aider à prendre des décisions éclairées. Avec l'évolution constante des pratiques de valorisation des matières résiduelles, l'accentuation du recyclage, compostage et autres mesures de gestion durable des ressources déchets,
L'emploi de sols contaminés dans un lieu d'enfouissement technique peut devenir obsolète à court ou moyen terme selon notre volonté collective, mais dans l'immédiat, cette valorisation contribue principalement à maintenir en place une gestion non durable des déchets tout en substituant l'utilisation des sols propres pour le recouvrement journalier. C'est l'état de la situation actuelle que nous pouvons prendre comme base de référence lors d'une éventuelle étude d'impact, afin de comparer pragmatiquement les impacts de l'enfouissement. À court terme, nous pouvons qualifier cet impact lié à la valorisation dans un lieu d'enfouissement technique comme un impact neutre, ou tout au plus un impact légèrement positif. Mais à moyen et long terme, cet impact peut se métamorphoser en impact négatif. Élaboration préliminaire des solutions de rechange, mesures d'atténuation et de compensation. L'objectif ici est de comparer des éventuelles solutions de rechange. En fait, l'objectif est de créer des solutions de rechange au projet afin de pouvoir éventuellement les comparer dans une étude d'impact à portée élargie. On pourrait, en fait, comparer trois solutions, incluant la variante 1, qui constitue le projet tel que présenté par le promoteur, la variante 0, qui constituerait son non-autorisation. En fait, le promoteur pourrait poursuivre ses activités de la plateforme de traitement avec obligation de traitement de l'ensemble des sols reçus. Il pourrait y avoir aussi la variante 2 qui se constituerait en l'enfouissement non définitif limité avec gestion et conception facilitant un traitement éventuel à moyen terme. À ce s'ajoute l'accentuation graduelle des exigences de traitement des sols reçus ainsi que l'implantation d'une redevance mensuelle qui permettrait d'éliminer graduellement la source de l'impact jusqu'à ce qu'on atteigne son élimination totale. Afin de limiter l'écart entre le coût social et le coût privé pour les sols non traitables dont les technologies actuelles ne permettent pas leur traitement immédiat, prévoir une redevance mensuelle à contribution croissante, par exemple, pour la durée du décret qui serait de 5 ans, le premier mois, une redevance serait perçue à l'enfouisseur privé équivalente à 5 $ par tonne enfouie. Le deuxième mois, 6 $ la tonne et ainsi de suite jusqu'au dernier mois du terme de 5 ans qui serait équivalent à 64 $ par tonne enfouie. Les fonds ainsi amassés au fil des mois pourrait constituer une partie du patrimoine d'affectation d'une éventuelle fiducie d'utilité sociale dont la vocation serait de permettre le traitement des sols non traitables à moyen terme, accentuer continuellement la qualité des sols traités, développer des débouchés pour une noble valorisation des sols ou accélérer l'accessibilité universelle des technologies de traitement ou toute autre affectation compatible avec les objectifs fixés par la communauté. Le choix de cette forme juridique à vocation perpétuelle unique au Québec rendrait possible une éventuelle décontamination des sols enfouis, contribuant ainsi à créer de la richesse collective via la diminution du passif environnemental, tout en améliorant l'efficience économique du Québec. Elle nous permettrait aussi de réduire considérablement les risques de désistement classique associés à une société par action, en plus de permettre le développement d'une expertise durable et exportable sur l'ensemble de la surface du globe. Il ne faut pas oublier que l'histoire de ce site d'enfouissement parle par lui-même. Avec les vestiges du vidangeur de Montréal, confiné dans les cellules temporaires du ministère dont nous devrons collectivement en assumer les frais dans un avenir rapproché, à ce s'ajoute le glissement de terrain écolosol qui nous a permis de récemment de vivre un désistement volontaire d'une société par action. Il est absolument nécessaire d'analyser les faits pour y comprendre que les formes juridiques limitant les responsabilités ne sont pas compatibles avec l'enfouissement. Sauf si l'ensemble des fonds nécessaires à leur réhabilitation pleine et entière est accumulé tout au long de la période d'exploitation. Au risque de me répéter, Nous ne serons jamais à l'abri des désistements volontaires d'une société constituée sous cette forme juridique. Le choix de l'incorporation par les entreprises qui génèrent des risques n'est pas le fruit du hasard. Elle est entre autres choisie parce qu'elle limite leurs responsabilités. Si les revenus de signataires ne sont pas au rendez-vous pour quelque raison que ce soit, croyez-moi, ils ont la possibilité légale de tirer la plug afin d'éviter d'assumer ce risque éternel. De plus, si leur coffre se vide au bout d'une période de temps donnée et que les activités d'enfouissement et ou de traitement deviennent obsolètes, aucune banque ne leur prêtera des fonds pour l'éternité avec pour garantie un titre de propriété contaminé. Pour accepter l'enfouissement sur notre territoire, nous devons exiger une garantie équivalente à la décontamination subséquente des sols enfouis. Afin d'assurer la mise en œuvre de cette décontamination post-enfouissement, le choix d'une forme juridique compatible avec ces activités risquées sur le long terme peut constituer en soi une mesure d'atténuation permettant de réduire significativement l'importance de l'impact résiduel. Cet outil projeté, la fiducie de mise en œuvre pour la réhabilitation post-enfouissement, offrirait l'opportunité d'éliminer graduellement la source de contamination sur une période raisonnable en fonction de l'avancement technologique, tout en permettant d'accentuer les effets bénéfiques concernant l'efficience économique. Avant d'autoriser l'enfouissement définitif, l'analyse historique des formes juridiques liées au site dont les activités ont contaminé les sols et dont ces mêmes entreprises ont légué un passif à la communauté doivent être analysées afin de déterminer si la forme juridique de l'entreprise peut accentuer les risques de désistement. Notre collègue Justin Trudeau au fédéral vient de subventionner à nos frais la réhabilitation d'une partie du secteur pétrolier désaffecté. La réhabilitation en soi est une très bonne affaire, mais pourquoi les contribuables doivent en assumer les frais? Car le principe de précaution n'a pas été appliqué, pas plus que celui de l'internalisation des coûts. Les outils et mécanismes nécessaires à la réhabilitation n'ont pas été planifiés et mis en œuvre avant l'autorisation des projets. Au Québec, à Mascouche, le passif d'écolosol sur le terrain de signataires est un second cas à étudier et plusieurs autres cas historiques sont bien présents. Les impacts et risques perpétuels conséquents à l'enfouissement doivent nécessairement être liés à une responsabilité perpétuelle équivalente. La fiducie de gestion post-enfouissement pourrait alors être une option afin de s'assurer que les fonds seront imputés afin de décontaminer les sols dans le futur.
Recommandation préliminaire. Recommandation 1. Refuser le projet tel que déposé. L'enfouissement définitif n'est pas un mode de gestion durable. Comparativement à l'enfouissement non définitif avec traitement post-enfouissement. Recommandation 2. Prévoir le traitement obligatoire lorsque la technologie le permet. Recommandation 3. Calculer le passif environnemental en fonction du coût réel de décontamination, qui est en fait le coût de traitement après l'enfouissement. Recommandation 4. Instaurer des mécanismes afin de s'assurer que le traitement ex situ tel que réalisé par signataire n'inflige pas des effets négatifs concernant le recours au traitement in situ plus durable. L'équilibre doit être maintenu de façon à ce que les traitements in situ soient préalablement choisis par les réhabiliteurs de sites puisqu'ils sont plus durables. Recommandation 5. Autoriser l'enfouissement non définitif à court terme sur une période maximale de 5 ans, conditionnel à la mise en place d'une redevance à augmentation mensuelle prédéterminée pour chaque tonne enfouie afin d'assurer une éventuelle décontamination en fonction des avancées technologiques et du développement des filières de valorisation. Départ à 5 $ par tonne pour le premier mois, 1 $ d'augmentation pour chaque tonne enfouie pendant le deuxième mois, et ainsi de suite pendant 5 ans
pour arriver à la fin du terme à 64 $ par tonne enfoui. Afin d'accélérer les choix de modes de gestion plus durables par les acteurs du milieu. Recommandation 6. Si des cellules à haute sécurité sont requises pour un enfouissement à court terme, prévoir leur conception afin de faciliter un éventuel traitement. Compartimentation des sols selon la nature des contaminants. Conception facilitant l'accès sécuritaire ou toute autre mesure appropriée. Recommandation 7. Instaurer une redevance pour les sols contaminés valorisés dans les lieux d'enfouissement technique. Recommandation 8. Avant d'autoriser l'enfouissement non définitif conditionnel, vérifiez ses impacts potentiels sur le développement technologique dans l'espace-temps, ainsi que des impacts sociaux associés. Vous comprenez qu'éviter d'apprendre à travailler adéquatement aujourd'hui se répercute sur notre capacité de traitement efficace pour demain tout en réduisant l'efficience énergétique et économique. Recommandation 9. Par précaution, prendre une pause de décret d'enfouissement, tous sites confondus, pour nous laisser le temps de bien collecter les données, analyser et vulgariser l'état global de la situation et de consulter les citoyens et experts. Cette pause nous permettrait d'approfondir nos connaissances afin de nous préparer à élaborer collectivement des stratégies cohérentes et durables. La consultation ciblée ne nous a définitivement pas laissé assez de temps pour bien analyser toute la situation et déposer un mémoire complet. Recommandation 10. Étant donné que les sols contaminés occupent une place croissante dans les lieux d'enfouissement technique, il est plus que nécessaire de greffer la gestion des sols contaminés à une éventuelle évaluation environnementale stratégique sur la gestion des matières résiduelles, et ce, avant toute autorisation ou décret projeté. Recommandation 11. Concernant l'ensemble des demandes d'autorisation, incluant ceux qui n'ont pas l'obligation de recours au processus de consultation publique, afin d'éviter l'omission de divulgation de solutions de rechange, prévoir un mécanisme afin d'impliquer les citoyens et experts indépendants à l'étape d'acceptabilité environnementale. Recommandation 12. Implanter une fiducie d'utilité sociale à vocation perpétuelle, financée via le principe du pollueur-payeur, dont la vocation serait d'accélérer les changements comportementaux et assurer l'atteinte des objectifs fixés par la communauté. Questionnements et avis concernant le risque zéro ainsi que la méthode de détermination de la capacité financière des entreprises. Selon le ministère, le risque de dommages à l'environnement est considéré minime et que le risque zéro ne peut être atteint. Il nous explique que la garantie est un instrument permettant de réduire les risques tout en respectant la capacité financière des entreprises et ce, dans le but de permettre leur adhésion tout en limitant les comportements de délinquance. Les garanties et exigences visent à couvrir les risques raisonnables et qu'il existe toujours un risque. Référence au document DB7. Je tiens à rappeler que si on applique les 16 principes du développement durable, le principe de précaution doit être appliqué lorsque possible. L'enfouissement n'est pas envisageable si d'autres mesures sont disponibles afin de réduire le risque à la source. Par ce fait, il est vrai que le risque zéro ne peut exister si on opte pour l'enfouissement avec cellules à sécurité maximale, mais ce risque zéro est bel et bien présent si nous optons pour une solution de rechange éliminant à la source l'enfouissement. Pour aider les lecteurs à mieux comprendre, je vais vous présenter une petite analogie de chantier. Favoriser l'adhésion à l'enfouissement des sols contaminés alors que des méthodes de traitement efficaces existent, c'est comme si la CNESST encouragerait un électricien à travailler dans un panneau électrique sous tension, conditionnellement à la mise en place de mesures d'atténuation via le port obligatoire d'équipements de protection anti-arc alors que la source d'énergie constituant le risque peut être éliminée à la source en fermant le disjoncteur. Sur les chantiers, les normes sont bien claires. La source constituant le risque est systématiquement coupée et seuls les rares cas exceptionnels autorisent le port d'équipements anti-arc alors que la source est toujours sous tension. Si on transpose cette analogie à la pratique courante d'enfouissement des sols contaminés, le dépôt définitif est le panneau sous tension constituant le risque. Le traitement de l'ensemble des sols contaminés via les technologies appropriées représente l'action de fermer le disjoncteur, éliminant ainsi le risque à la source, ce qui a pour effet d'éliminer la nécessité du recours à la conception et l'entretien ainsi qu'au suivi des cellules de confinement à sécurité maximale représentées par le port de protection anti-arc sur le chantier. Tant les cellules à sécurité maximale que les équipements anti-arc sont des équipements coûteux et littéralement inutiles si nous travaillons de façon logique en éliminant le risque à la source. Même si un vendeur motivé d'équipements de sécurité passe sur le chantier pour nous convaincre de la nécessité du recours aux équipements de protection, alors que le chantier est équipé d'un disjoncteur offrant l'opportunité d'éliminer le risque à la source, aucun gestionnaire moindrement rusé ne se laisserait tenter par l'achat d'équipements de protection inutiles. Ici, le promoteur d'un site d'enfouissement est représenté par le vendeur d'équipements de protection anti-arc non durable et totalement inutile dans les circonstances puisque la technologie appropriée existe. Quelle est la méthodologie ainsi que les outils utilisés afin d'évaluer le risque de dommages à l'environnement? Les 16 principes du développement durable sont-ils appliqués pour faire ses choix? Dans le cadre de son analyse, comment le ministère détermine-t-il la capacité financière des entreprises? Tient-elle compte des impacts inhérents à l'adhésion de ce mode de gestion définitif et non durable sur l'adhérence des acteurs du milieu à d'autres solutions durables, comme par exemple le traitement in situ, le développement de nouveaux débouchés pour valoriser les sols contaminés ou l'amélioration continue de la qualité des sols traités, ainsi que la recherche des méthodes de traitement plus durables? Quels sont les outils et instruments utilisés afin de comparer rationnellement le modèle de gestion à encourager? Considérant que les garanties financières constituent en soi une mesure d'atténuation permettant de réduire les risques inhérents à l'enfouissement, lors de l'analyse de l'acceptabilité environnementale, quelles solutions de rechange à l'enfouissement seront comparées et prises en compte afin de réduire les risques à la source? Conclusion. Il est nécessaire de prendre une pause afin d'introduire les 16 principes du développement durable lors de l'élaboration des projets afin de les inclure systématiquement dans les éventuelles études d'impact, ce qui est absolument nécessaire avant d'autoriser d'autres projets d'enfouissement. Les solutions de rechange offrant des possibilités de réduire à la source les impacts appréhendés peuvent être élaborées au début du processus si les mécanismes appropriés sont éventuellement mis en place afin d'accentuer les effets synergiques bénéfiques attribuables à l'implication de divers acteurs issus de domaines différents et dont les expériences de vie peuvent nous aider à élaborer des solutions de rechange plus durables. L'élargissement de la zone d'étude au début de la démarche d'élaboration des projets peut aussi nous aider à ne pas passer à côté de l'élaboration de solutions de rechange. Le processus se doit d'être interactif et accessible pour tous. Malheureusement, dans notre société, tous n'ont pas accès aux mêmes outils permettant de s'impliquer activement. Il est alors nécessaire de revoir nos façons de faire afin de permettre au plus grand nombre d'intéressés de faire partie intégrante de la solution, et ce, particulièrement à l'étape d'élaboration des projets. Peut-être que dans un avenir rapproché, nous pourrions remplacer quelques publicités télé par des capsules d'information sur les projets en cours dont l'implication active de la communauté nous offrirait littéralement la possibilité d'optimiser les effets bénéfiques. Imaginez des projets de société basés sur les 16 principes de durabilité qui impliqueraient systématiquement un cocktail d'outils innovants comme par exemple le BAP à portée élargie, l'analyse du cycle de vie, l'étude d'impact socio-environnemental, l'éco-conception. Si nous choisissons aujourd'hui de refuser progressivement le recours à l'enfouissement définitif, tout type de sol ou d'objets confondus, il sera possible de rendre cet enfouissement obsolète. J'aimerais remercier les gens qui ont participé au processus d'audience publique du lieu d'enfouissement technique de Sainte-Sophie, cette participation qui a soulevé des enjeux majeurs, incluant ceux des sols contaminés, m'a permis de faire germer quelques graines attribuables au processus sigmergique tant nécessaire au soulèvement des enjeux concernant les sols contaminés. Notre passage sur cette planète est trop court pour perdre notre temps à nous apitoyer sur notre sort. Nous sommes solidairement responsables de cette situation et nous sommes la seule espèce à avoir la capacité d'y remédier. Les problématiques maintenant soulevées, attaquons-nous à faire la liste des solutions de rechange à l'enfouissement et s'ils n'existent pas, créons-les. Mais de grâce, l'enfouissement à perpétuité n'est pas à considérer. Les cellules du ministère confinées sur le terrain de signataires peuvent nous paraître comme un lourd fardeau collectif, mais vu sous un autre angle, ces cellules souillées nous font miroiter un gisement d'opportunités pour modifier nos façons de faire, nous améliorer et créer de nouvelles méthodes de traitement innovantes dont l'ensemble de la collectivité pourra bénéficier. J'invite signataires en partenariat avec la collectivité, les experts du milieu, les ministères, la communauté universitaire, les enseignants du secondaire et primaire, ainsi que leurs élèves, toute personne manifestant son intérêt à se joindre à nous, afin de créer de toutes pièces un programme de gestion durable et équitable des sols qui nous permettra d'en finir avec l'enfouissement. J'aimerais aussi remercier particulièrement les gens qui ont posé des questions à la période d'information du projet de signataire, ce qui m'a permis de bâtir les raisonnements et motifs nécessaires à la rédaction de cette demande de consultation ciblée. Je tiens aussi à remercier tous les intervenants qui ont participé ou qui participeront via le dépôt de mémoire, ainsi que les représentants de signataires du ministère, le comité de vigilance, la ville de Mascouche, ainsi que l'équipe du BAP, sans qui ce processus démocratique serait impossible.